Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et qu'ils n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla de retour chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. »
Merci beaucoup, Génova. Et bonsoir à tous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir un entretien d'embauche que vous avez fait exprès de rater. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était il y a fort longtemps, lors de mon premier cycle d'études qui n'avait rien à voir avec la théologie et avec le ministère pastoral. Et dans ma jeunesse, j'ai eu deux entretiens prévus pour un stage qu'il fallait que je trouve. Et l'un correspondait très clairement à mon plan A, le stage espéré, celui que je voulais avoir. Et puis l'autre était un plan B dont je n'étais pas du tout convaincu. Et j'ai eu le premier entretien donc pour le plan A. Et quelques heures, donc ensuite il y a eu quelques jours d'écart, et ensuite quelques heures avant d'avoir le second entretien, j'ai appris que j'avais décroché ce premier stage que j'espérais. Et là, quelqu'un de plus mûr et raisonnable aurait certainement annulé le deuxième entretien, qui n'avait plus vraiment lieu d'être. Mais j'étais un peu embarrassé, j'avais peur de paraître peut-être irresponsable ou je ne sais pas quoi. Et du coup, j'y suis allé, mais sans aucune conviction. Et je n'ai fait aucun effort pour paraître persuasif. Et dans le texte de ce soir, Dieu appelle Moïse à une mission, mais on voit que son entretien d'embauche est absolument désastreux. Moïse, très clairement, ne veut pas le job. Et on a là un de ces passages bibliques où l'humour est loin d'être absent. Et on voit que Moïse va essayer de dissuader Dieu de faire appel à lui. Mais ce texte va surtout nous montrer que nos faiblesses ne sont pas un obstacle pour Dieu. Et la phrase clé que je vous propose de retenir pour ce soir est la suivante. « Parce que Dieu est Dieu, nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. Parce que Dieu est Dieu, nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. Et on va simplement diviser cette phrase en deux, ça sera le plan de ce soir. Parce que Dieu est Dieu, nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. Premièrement donc, Dieu est Dieu, parce que Dieu est Dieu. Alors il y a quelques jours, le journal satirique en ligne, le Gorafi, que certains lisent parfois peut-être, spécialisé dans l'humour plutôt absurde, titrait ceci « Émotion à Marseille après la mort de Batman au cours d'une de ses interventions ». Alors le goût est un peu douteux, je vous l'accorde, mais ça nous rappelle un peu, en un clin d'œil, que les super-héros n'existent pas vraiment. Et qu'il y a un contraste entre la fiction des super-héros et la réalité. Mais bien au-delà des super-héros, on peut se demander d'où vient cette aspiration de l'homme à une puissance bonne, une puissance capable de s'opposer au mal, une puissance capable d'exercer la justice avec autorité. Comment expliquer ce désir qui est en l'homme ? Deux interprétations semblent envisageables. Soit nous imaginons ce genre de choses simplement par fantasme, parce qu'on a besoin de se rassurer par rapport à la dure réalité de la vie. Et c'est une explication qui est souvent entendue, notamment vis-à-vis de la foi en Dieu, en un Dieu puissant. Soit l'homme a cette aspiration au fond de lui parce qu'il a été créé pour aimer la justice à l'origine. Il a été créé pour aimer le bien. Et nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui est véritablement tout-puissant et qui est animé par une parfaite justice. Alors vous ne serez pas surpris d'entendre que la Bible nous oriente plutôt vers cette deuxième explication. Nous avons envie de puissance et de justice, d'une puissance bonne, parce que nous avons comme enfoui au fond de nous, on pourrait dire, le souvenir de notre Créateur et le désir de le voir intervenir pour nous délivrer. D'ailleurs, la Bible emploie, entre autres, pour parler de Dieu, un terme dans le Nouveau Testament qui ferait un très bon nom de super-héros. En grec, c'est Pantokrator. Pantokrator, alors ça veut dire le tout-puissant. C'est utilisé une fois dans la seconde lettre aux Corinthiens et 9 fois dans le livre de l'Apocalypse. Mais bien sûr, il y a plein d'autres termes du même ordre qui sont utilisés dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu est l'Éternel des armées, le tout-puissant, celui qui maîtrise toute chose, qui aura toujours le premier et le dernier mot, l'alpha et l'oméga, nous dit également l'Apocalypse. Le premier et le dernier mot sur l'histoire et sur chacune de nos histoires. Et dans ce texte, on voit que c'est ainsi, comme un Dieu tout-puissant, que Dieu se présente à Moïse. Au chapitre précédent, on a vu que Dieu se révèle comme le Dieu qui est, au point de se donner le nom « Je suis ». On a vu aussi que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la situation d'Israël en Égypte. Il a permis une très longue épreuve, l'esclavage aux mains des Égyptiens, pendant plusieurs siècles. Mais au moment choisi, dans sa souveraineté, dans sa providence, eh bien, il annonce qu'il va intervenir. Et il choisit d'intervenir par l'intermédiaire d'un homme, Moïse. Alors Dieu aurait pu intervenir de plein d'autres manières, mais il a choisi de le faire par l'intermédiaire de cet homme, Moïse. Et tout au long de ce chapitre 4, on a un contraste entre l'impuissance que Moïse ressent à propos de lui-même et la confiance absolue que Dieu, lui, a en ses projets. Sa souveraineté totale sur les événements. Comme on l'a vu quand on a étudié le chapitre précédent, il y a quelque temps, Dieu n'est pas inquiet. Dieu n'est jamais inquiet. Et cette providence totale, Dieu la démontre dans ce texte par les 3 signes qu'il donne à Moïse dans cette scène. Verset 3, le bâton qui se change en serpent. Verset 6 et 7, la peau qui devient malade et puis qui guérit. Et verset 9, l'eau qui se transforme en sang, un signe que Dieu en fait ne montre pas encore, mais qu'il promet à Moïse si besoin. Alors quand on lit ce texte, quand on lit la description de ces signes miraculeux que Dieu donne, je ne sais pas quelle est votre impression, mais on peut avoir l'impression que ça fait un petit peu tour de passe-passe, que ça a peut-être un peu juste pour but de d'épater Moïse, de l'impressionner. Et on pourrait du coup oublier que dans la Bible, les signes, les miracles, sont toujours porteurs de sens. c'est pas pour rien d'ailleurs que le mot signe est souvent utilisé pour les décrire, et c'est le cas ici au verset 8 et 9. Il est question de signe. Et même si ce n'est pas explicite ici, on a des raisons de penser que ces signes, ils étaient parlants dans le contexte de l'époque tout particulièrement. Le serpent d'abord. Le serpent était un symbole important de l'Égypte de l'époque. Les pharaons portaient des couronnes sur lesquelles était gravé un cobra. Et d'ailleurs, la divinité la plus importante dans la religion égyptienne de l'époque, Ra, était représentée lui aussi avec un serpent sur la tête. On constate au verset 3 que Moïse donc voit ce serpent, qui est à l'origine le bâton qui s'est transformé en serpent, que Dieu a transformé en serpent, et il veut s'enfuir, il a peur, on le comprend, moi aussi j'aurais peur. Mais Dieu l'invite à saisir le serpent, qui est réduit à l'impuissance et qui ne fait que redevenir un instrument dans sa main. Le message est clair. Dieu est souverain sur l'Égypte. Pour ce qui est de la lèpre, entre guillemets, le terme pouvait décrire plus largement des maladies de la peau, les choses sont un peu moins évidentes, mais plusieurs commentateurs, spécialistes font remarquer que la lèpre était considérée à l'époque comme, dans un sens, le pire des fléaux, parce que c'était une maladie tout à fait incurable. Et en Égypte particulièrement, on craignait la lèpre. Ça faisait partie de ces choses que l'homme ne maîtrisait en rien, que l'homme ne pouvait qu'espérer éviter. Mais ici, Dieu se montre souverain aussi sur ce fléau. Une simple décision de sa volonté et elle apparaît. Une simple décision de sa volonté et elle disparaît. La pire crainte de l'Égypte est à la merci du Dieu souverain. Enfin, le symbole de l'eau transformée en sang. Ça anticipe sur la première des 10 plaies d'Égypte qui viennent plus tard dans le livre de l'Exode. Et là, ça touche ce qui faisait la plus grande fierté du pays, le Nil. Alors, le mot Nil n'est pas utilisé dans le texte. Il est question simplement d'un fleuve au verset 9. Mais dans le contexte de l'Égypte, c'est clair que ce n'est pas la Dordogne dont il s'agit ici. C'est clairement le Nil, le fleuve qui faisait la fierté de l'Égypte. Et donc là encore, on peut penser que ce signe renvoie à la puissance égyptienne et montre que cette grande puissance humaine, qui paraissait si terrifiante à Moïse, était entièrement soumise au projet du Créateur. Et puis au-delà de leur symbolique, ces signes étaient pédagogiques. On peut penser qu'ils étaient pédagogiques pour Moïse. Par exemple, le fait de saisir un serpent par la main, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, je le déconseille, mais c'était peut-être l'acte le plus courageux. Alors, si Dieu dit de le faire, ça va. Mais c'était peut-être l'acte le plus courageux qu'il ait jamais eu à accomplir. Or, du courage, Moïse va en avoir besoin tout au long de sa mission. Donc, également, on peut penser cet aspect pédagogique. Mais surtout, avant tout, le message central est clair. Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître d'une grande puissance comme l'Égypte. Il est le maître aussi d'un homme aussi limité et craintif que Moïse. Et ça, c'est un rappel très précieux pour nous également. On peut avoir parfois l'impression que Dieu, peut-être, ne s'intéresse qu'aux grands événements de ce monde et ne s'implique pas dans nos vies et dans nos projets. Ou peut-être qu'on a l'impression inverse, qu'à la limite, les petites choses de la vie, Dieu peut peut-être gérer, mais par contre, face aux affres de l'actualité, là, il ne fait rien, il est impuissant, il ne fait que regarder ça de loin en spectateur. Et les Israélites eux-mêmes ont pu ressentir l'un ou l'autre sentiment pendant 4 siècles d'esclavage. Que fait Dieu ? Mais Dieu se révèle dans ce texte encore comme le Dieu qui a le dernier mot sur toute chose, le Dieu dont rien ni personne ne peut arrêter les projets. Et s'il maîtrise le monde entier, à combien plus forte raison il maîtrise nos vies ? La vie présente, elle est encore marquée par la souffrance. Vous êtes informés de ça, c'est pas la peine que je le rappelle. On le sait par expérience, on le sait en voyant ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe dans le monde et ce qui peut nous arriver à nous-mêmes. La vie est marquée par l'incompréhension, les conflits, les doutes, très souvent. Nous constatons sans cesse nos limites et puis nous constatons, si nous sommes honnêtes, nos fautes également, nos offenses vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Mais si nous croyons pouvoir expliquer ces choses par la passivité de Dieu, ou son désintérêt, ou son impuissance, ou son absence, nous faisons fausse route. Si on regarde le verset 10, On voit que Moïse proteste en disant qu'il n'est pas doué pour parler. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler !» Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Moïse informe Dieu que ça fait longtemps qu'il a du mal à parler, comme si Dieu ne le savait pas. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Moïse avait juste peur de parler en public ? Comme pas mal de gens ont peur de parler en public, est-ce que c'était ça ? Est-ce qu'il n'était pas éloquent, il n'avait pas le sens des mots ? Ou bien est-ce que, comme pas mal de gens l'ont pensé, il avait peut-être un défaut d'élocution ? En fait, on ne sait pas, il faut reconnaître. Mais manifestement, quand Dieu lui propose d'être le chef de son peuple pour le conduire hors d'Égypte, quand Dieu lui demande d'aller parler au peuple et puis parler au Pharaon, Moïse ne se sent pas du tout à la hauteur. Mais là, la réponse de Dieu, elle ne laisse vraiment pas de place au doute. Verset 11, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ?» Ah bah oui, dit comme ça, c'est sûr. Tout vient de Dieu, de A à Z, tout vient de lui. D'ailleurs, même quand on considère les découvertes scientifiques les plus impressionnantes, elles utilisent toujours, sans exception, les ressources que Dieu a créées. L'homme ne fait, alors c'est impressionnant quand même, mais l'homme ne fait que réutiliser des ressources qui sont à sa disposition. Dieu est le seul à pouvoir créer ex nihilo à partir de rien. Et ça nous rappelle le chapitre 3. Dieu est celui qui est. Tout ce qui est trouve son origine en lui. Et ça veut dire quelque chose de capital. C'est que toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre et pour faire face aux défis qui sont les nôtres se trouvent auprès de lui. Dieu ne nous épargne pas les épreuves, c'est vrai. Il patiente encore, et la Bible en parle souvent, il patiente encore avant de mettre fin à ce monde rebelle et souffrant et d'inaugurer un monde nouveau, entièrement transformé, réconcilié avec lui. La lumière a déjà percé les ténèbres, mais nous attendons encore qu'il fasse jour. Mais Dieu n'a pas perdu le fil de l'histoire et il n'a pas perdu le fil de notre histoire à chacun. Et face aux épreuves que nous rencontrons, face aux difficultés et aux limites auxquelles nous faisons face, c'est toujours auprès de Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui est le Tout-Puissant, c'est toujours auprès de lui que nous trouverons les ressources nécessaires. Et ça veut dire qu'on ne perdra jamais son temps en appelant Dieu à l'aide. On ne fera jamais fausse route en cherchant refuge auprès de Dieu. C'est toujours, toujours la solution. Donc ne cherchons pas à trouver notre chemin tout seul, mais parce qu'il est qui il est, ayons confiance pour entrer dans ses projets. Parce que Dieu est Dieu, nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. C'est notre second point. Alors la très petite poignée de personnes parmi nous qui étaient à la Convention baptiste à Vichy cet été, je crois qu'il y a deux personnes parmi nous qui étaient, en plus de moi. Bref, vous reconnaîtrez cette anecdote, donc désolé pour vous de me répéter, parce que je l'ai utilisée dans une autre intervention, dans un autre contexte d'ailleurs. Mais voici l'histoire. En 2007, c'est une histoire vraie, un jeune homme congolais du nom de Guy Goma s'est rendu au siège de la BBC, une grande chaîne que vous connaissez très bien, pour un entretien en vue d'un emploi dans le service comptabilité. Et ce jour-là, donc un entretien d'embauche pour un boulot. Et ce jour-là, dans le même bâtiment, se trouvait un autre homme qui avait le même prénom, Guy Cuney, un spécialiste britannique des hautes technologies. Et le deuxième, donc, devait être interviewé sur une question très précise, assez technique, liée au téléchargement de musique sur Internet. Ce qui devait arriver arriva. Le personnel de la BBC s'est trompé de Guy et a fait venir sur le plateau pour passer en direct Guy Goma. Donc ce pauvre monsieur qui pensait avoir un entretien en rapport avec la comptabilité se retrouve brusquement en direct. Et lorsqu'il se rend compte de la méprise, son expression en dit long. Et le pauvre, on se met à sa place. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il va essayer de répondre tant bien que mal aux questions de l'intervieweuse. Il s'en sort même pas si mal d'ailleurs. Mais à vrai dire, il n'y a rien de plus difficile, de plus embarrassant que de devoir parler de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, de devoir d'être appelé à une mission pour laquelle on se sent absolument et totalement dépourvu. Dans notre texte, Moïse ne se sent tellement pas à la hauteur de la tâche à laquelle Dieu l'appelle, qu'à trois reprises, il va dire à Dieu, en gros, je paraphrase, « Laisse tomber, Seigneur, ça ne marchera pas. Trouve quelqu'un d'autre. » On voit ça au verset 1, Dieu vient de lui révéler ses projets. Moïse répond, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. » C'est un peu gonflé de répondre ça au Dieu Tout-Puissant. « Ton idée ne marchera pas, mais Moïse y va franco. » Verset 10 à nouveau, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Et la goutte d'eau qui fait en apparence déborder le vase de la patience divine, c'est au verset 13. « Ah Seigneur !» Et là, il ne cherche même plus d'arguments. « Envoie quelqu'un d'autre que moi. » Donc Moïse, en gros, dit, voilà, sa démonstration, c'est 1. Je ne serai pas crédible. 2. Je ne suis pas doué pour parler. Donc, c'est QFD. Je ne suis pas l'homme de la situation. Et a priori, ce n'est pas de la fausse modestie. Moïse, je crois, ne se sent vraiment pas à la hauteur. C'est honnête. Peut-être qu'il a le souvenir du fiasco de sa dernière tentative d'intervenir en faveur des Hébreux lorsqu'il a tué un Égyptien et a dû fuir le pays. Et c'est pour ça qu'il est à Madian depuis des années. Mais l'erreur de Moïse ici n'est pas qu'il ne croyait pas suffisamment en lui-même. Aujourd'hui, c'est ce qu'on lui répondrait. « Si, si, mais crois en toi, Moïse. Yes, you can. Tu vas y arriver. » Mais on note que ce n'est pas le message, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne répond pas « Mais tu te sous-estimes, Moïse, enfin. » Ce n'est pas du tout la réponse de Dieu. Il répond « Tu me sous-estimes. » Les réponses de Dieu détournent à chaque fois l'attention de Moïse sur lui-même pour la ramener vers Dieu. Alors à ceux qui trouveraient ça égocentrique de la part de Dieu, il faut répondre que si Dieu ramène toute chose à lui-même, c'est parce qu'il est qui il est. Il est le Dieu qui est à l'origine même de l'être, le Dieu dont nous tirons notre existence, le Dieu dont nous avons désespérément besoin. Si Dieu attire l'attention sur lui, c'est par amour pour nous, c'est parce que nous avons besoin que notre attention soit tournée vers lui. Dans l'épreuve, donc, nul doute que certains parmi nous ce soir passent en ce moment par l'épreuve. Dans l'épreuve, nous devons nous rappeler qui est Dieu, souverain et bon, animé par un amour surpuissant, insondable. Face à notre péché aussi, nous devons nous rappeler qui est Dieu, implacable dans sa pureté, qui nous révèle la vérité de notre cœur et la vérité de nos offenses. Et ça fait mal lorsqu'on prend conscience de ça. Mais si Dieu est implacable dans sa pureté, s'il révèle l'intérieur de notre cœur, il est également implacable, et plus encore, dans sa grâce, dans son désir et sa détermination de nous rétablir et de nous donner un nouveau départ. Et comme on l'a vu lors du chapitre précédent, lorsque nous crions à Dieu face à l'évidence de nos limites et de nos fautes, lorsque nous lui disons comme Moïse, « Mais qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour vivre ce que tu m'appelles à vivre ?» Dieu répond, « Moi, je suis qui je suis. » Et à vrai dire, quand on pense aux héros de la Bible, ce ne sont pas des gens particulièrement impressionnants. À bien des égards, ils nous ressemblent dans leur faiblesse, dans leurs limites. Abraham, un homme un petit peu tordu parfois, un peu lâche. Et pourtant, Dieu va en faire le père de tous les croyants. On peut penser à Ruth, une migrante d'origine païenne qui fuit la pauvreté, dont Dieu va faire un modèle de foi et de fidélité. On peut penser à David, un jeune berger un peu fragile, et pourtant Dieu en fera le roi d'Israël par excellence. Marie, une jeune fille de famille modeste, pauvre, et pourtant Dieu l'a choisie pour donner naissance à notre Sauveur. Les disciples de Jésus, de simples commerçants, peu instruits, qui vont devenir les fondateurs de l'Église. Et pour chacune de ces personnes, il y aurait eu largement des raisons de dire « pas lui, pas elle », très mauvaise idée. Mais parce que Dieu est Dieu, chacun d'entre nous, quelles que soient ses limites, quel que soit son passé également, peut entrer dans ses projets, précisément parce que ce sont ses projets et pas les nôtres. Et ce texte nous montre la patience de Dieu. Moïse proteste une première fois, Dieu lui donne 3 signes. Il proteste une deuxième fois, Dieu lui rappelle avec douceur que les limites de Moïse ne sont pas les siennes. Il proteste une troisième fois, alors là c'est vrai, Dieu se met en colère, mais on voit juste après qu'il pourvoit une solution dans sa grâce et il maintient ses projets pour Moïse. Dieu n'en est pas à un de nos échecs près et nous en sommes la preuve vivante. Il ne nous demande pas d'essayer de nous justifier sans cesse, d'essayer de nous rattraper, mais plutôt de nous tourner vers lui, de nous retourner vers lui à nouveau à chaque fois qu'il le faut et de rentrer dans ses projets. Alors quels sont ses projets pour nous ? Bien sûr, on peut apporter des réponses individuelles à cela en priant, en méditant les Écritures, en demandant conseil à des personnes de confiance chrétiennes autour de nous. Nous pouvons discerner souvent les bons projets de Dieu pour notre vie. Wissam et Sophie ont discerné que Dieu les appelait à le servir au Liban. On en redira quelques mots tout à l'heure. Joe, Anne-Sophie, Guillaume, Viviane, peut-être d'autres bientôt, ont discerné que Dieu les appelait à se joindre à l'église Saint-Lazare, ou Ming à l'église du Pré-Saint-Gervais. Pour d'autres, ce sera peut-être des choses simples. Proposer à un frère ou une sœur de se rencontrer régulièrement pour lire la Bible ensemble. Exercer un ministère d'hospitalité chez soi. Prendre un temps chaque semaine, pour ceux qui ont des enfants, pour parler de Dieu. Prier avec ses enfants. Avoir une liste de sujets de prière, peut-être qui concernent l'Église. Et prendre un temps régulièrement qu'on met dans le planning pour prier pour l'Église, pour prier pour les défis auxquels elle fait face. S'engager auprès de la garderie. C'est plutôt pour le culte du matin, mais on peut s'y engager. S'engager auprès du ménage, où il y a des besoins. Mais il y a aussi des projets que Dieu a pour nous tous, des projets qui nous concernent tous collectivement. Par exemple, l'évangile de Matthieu nous dit ce verset bien connu, c'est Jésus qui parle après sa résurrection, et qui dit « Faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ça, ce n'est pas seulement la mission des pasteurs et des évangélistes, c'est la mission de toute l'Église qui prie, qui témoigne, qui n'a pas honte de l'Évangile. Je cite un autre texte qui nous parle aussi des projets de Dieu pour nous qui sommes chrétiens et ceux qui sont appelés à le devenir. C'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Voilà qui fait un très bon résumé de la mission d'une église comme la nôtre. Nous laisser former ensemble par Dieu pour parvenir ensemble à l'unité de la foi et à une connaissance toujours meilleure de Jésus-Christ. Alors c'est vrai, pour entrer dans ces projets, il va falloir sans doute revoir certaines priorités. Ce n'est pas toujours facile. Il va peut-être même falloir revoir entièrement notre façon de voir la vie. Et nul doute que plein d'objections nous viennent à l'esprit. Pas moi, Seigneur. Je ne peux pas parce que ceci, je ne peux pas parce que cela. Trouve quelqu'un d'autre. Mais n'ayons pas peur d'avoir l'audace de la foi. Parce que Dieu est Dieu, nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. Je vous invite à prier. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es souverain. Parfois, cette souveraineté suscite des questions chez nous. Si tu es souverain, pourquoi permets-tu ceci? Pourquoi permets-tu cela? Mais c'est justement parce que tu es souverain que nous te prions. C'est parce que nous savons que tu maîtrises toutes choses, que rien ne t'échappe, que nous pouvons te présenter librement nos requêtes, que nous pouvons nous tourner vers toi et que nous pouvons chercher auprès de toi les ressources dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous savons que ces questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, eh bien toi, elles ne sont pas des mystères pour toi. Toi, tu connais les réponses. Et que nous les entendions ou non, ces réponses, parfois oui, parfois non, eh bien, nous pouvons avoir confiance dans le fait que rien ne t'échappe, que rien ne te menace. Et Père, nous attendons ce jour où tout ce qui nous paraît aujourd'hui des voies sans issue déboucheront sur la vie dans toute sa force. Parce que tu es le Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu dont les projets pour nous sont bons. Tu nous dis dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont appelés selon ton dessein, selon tes projets éternels. Alors nous voulons nous inscrire dans ces projets, Seigneur, avec confiance, en sachant qu'il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, des temps bénis. Mais si tu es à nos côtés, et tu le seras, et si tu nous donnes la grâce de rester attachés à toi, alors nous n'aurons pas à craindre, ni aujourd'hui, ni demain, ni l'éternité, car nous serons avec toi. Au nom de Jésus. Amen.